Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 34, le réseau Forteto. En Italie, une communauté pédophile protégée par les autorités pendant 35 ans. En Italie, une affaire de réseau pédophile déguisée en coopérative agricole sectaire arrive à son terme. Le gourou vient d'être condamné, enfin, après 35 ans de silence sur des abus graves concernant plusieurs dizaines d'enfants. Des victimes dénoncent la complicité des autorités, politiques compris, des services sociaux et de la justice qui auraient protégé la secte durant tout ce temps. La communauté, devenue une coopérative agricole dans les années 90, est créée par de jeunes libertaires en 1977 sous le nom de Il Forteto à Prato, près de Florence. 2 ans plus tard, le groupe déménage à Vicchio, à quelques kilomètres à l'est de Florence, et la région rachète la première ferme pour 300 millions de lire, 60 millions d'euros. La philosophie entre guillemets de ce groupe, fondée par une trentaine de jeunes, se situe dans la veine des idées post-68ardes de libération sexuelle, comme une alternative à la famille traditionnelle. Les fondateurs ont au départ conçu cette communauté comme une sorte d'église non conventionnelle, une expérimentation sociale qui s'est transformée peu à peu en un centre de réhabilitation pour des jeunes maltraités ou en rupture. Ça rappelle tout à fait l'affaire du Corral, je vous renvoie au podcast, donc dans le sud de la France, qui était lié à ce genre de foyer pour mineurs vulnérables, délinquants, etc., qu'on va aider, ou également au foyer des Tournelles dans un autre genre, là c'était plus par le luxe, soi-disant, mais encore autour de la protection de l'enfance. Une fondation a donc été créée dans cet objectif. En parallèle, les dirigeants distillaient divers préceptes en matière d'éducation, avec un écho important dans le pays. Et nombreux ont été les spécialistes, entre guillemets, à écrire sur cette expérimentation, entre guillemets, dans laquelle des enfants ont été victimes de maltraitance et d'abus sexuels pendant plus de 30 ans. Une étrange vision de l'éducation. À l'origine de la communauté, les relations hétérosexuelles étaient même interdites, si bien qu'aucun enfant ne naissait. Du coup, les adultes de la secte sont devenus familles d'accueil et les enfants passaient d'un parent adoptif à l'autre. Souvent maltraités, obligés de travailler parfois dès 8 ans, au même rythme que les adultes, les enfants étaient aussi des proies sexuelles. En effet, dans cette secte, tout le monde était incité à avoir des relations sexuelles dès l'adolescence et parfois avant, car les abus sexuels sur les enfants étaient courants. Mais en même temps, les hommes et les femmes vivent divisés, ils dorment, mangent, travaillent séparément, même mariés, expliquait une victime lors d'une audience au tribunal. Alors juste, je renvoie également au podcast sur la secte La Famille Internationale, où on retrouve encore ce genre de délire. Voilà. Le gourou Roberto Fiesoli, appelé le prophète, a été condamné avec son bras droit pour acte de libido violente et mauvais traitement d'enfants handicapés, et il a définitivement été condamné en 85 attention, à 2 ans de prison. Parmi les faits qu'on lui reprochait, il y avait des faits de nature sexuelle. Mais, miracle, à sa sortie en 79, il a pu être famille d'accueil. Quant à Goffredi, il a carrément pu adopter 2 enfants. Du coup, ça doit être pas 80, c'est pas 79, c'est 99, 89. En 2000, Fiesoli a encore été arrêté et reconnu coupable de corruption de mineurs. Il avait déjà fait un petit tour en prison, donc en 79 encore auparavant. Puis, fin 2017, lors de la procédure d'appel à sa condamnation de 2013, donc là il prend 17 ans de prison, il a pris 15 ans et 10 mois de prison, donc un peu moins, et 22 autres personnes ont été condamnées avec lui. Quand la police est venue le chercher chez lui, Fiesoli a paru surpris. Il ne s'attendait pas à ce que l'ordre soit exécuté. Eh oui, il pensait être protégé. Et on va voir pourquoi. Pensait-il que sa maladie, entre guillemets, lui épargnerait la prison? On dirait. En tout cas, ses avocats veulent en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme pour que leurs clients sortent de prison au nom d'un procès équitable. Ah oui. Le principe de la secte était la rééducation. Et ces théories ont été publiées dans des ouvrages, discutées dans des conférences à travers la région et le pays, et ont obtenu une légitimité de la part des intellectuels plutôt situés à gauche, des politiciens, des magistrats, des psychiatres, des travailleurs sociaux, et même par les autorités locales. Des scientifiques réputés ont même écrit sur les méthodes du Forteto, encore dans les années 2000, je cite: Les dirigeants de la coopérative, nous dit un journal italien, ont été invités à d'importantes conférences pour expliquer leur modèle éducatif. Et la justice pour mineurs a continué à envoyer à Mugello des enfants issus de familles tombées dans la violence morale, physique et sexuelle. C'était dans Il Giornale. Fin de citation. Une fois les enfants arrivés dans la communauté, les fratries étaient automatiquement séparées et les relations entre frères et sœurs étaient désapprouvées. Les enfants étaient confiés à des parents du même sexe, puisque les hommes et les femmes étaient strictement séparés. Quand une mère se montrait trop proche de son enfant, il lui était retiré. La communauté passait cependant pour une référence. Il Forteto était, je cite, un centre d'excellence en Toscane et l'un des meilleurs centres italiens pour le rétablissement des mineurs maltraités, abusés et déviés. Et il était devenu l'un des centres préférés du tribunal pour mineurs qui lui confiait des garçons maltraités. Fin de citation. Donc là, on peut quand même se poser des questions sur déjà comment une seule communauté a pu avoir des financements directement des politiques. Enfin, excusez-moi, mais vous, une communauté de chevelus qui va se mettre en Ardèche, vous n'avez pas 60 millions d'euros par le conseil régional pour vous acheter une ferme, hein. Deuxièmement, oui, on peut vraiment se poser des questions sur tous ces relais d'opinion, institutionnels, experts, etc., qui en fait savaient très bien ce qui s'y passait, évidemment, puisqu'il y avait des retours, et même les pratiques, qu'on vous dit comment ça se passait à l'intérieur, ben, vous pensez bien qu'ils le savaient, puisqu'ils étaient venus étudier la chose. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le réseau. Voilà, ce sont des gens qui ont certainement pu au moins peut-être en profiter, ou au moins d'être dans les mêmes états d'esprit, et avaient peut-être des pratiques communes chez eux, ou dans leur entourage. Reprenons. D'autant plus, un centre préféré qu'il ne demandait pas les frais de placement familial. Eh oui. Alors comment il se finançait, c'est ça la question. Mais il touchait d'autres subventions publiques, dont certaines font l'objet d'enquêtes pour fraude. Ah, vous voyez, c'était au lieu de gratter l'argent des foyers pour mineurs de l'ASE, c'était encore mieux. C'était la combinazione, comme on dit là-bas. La coopérative, selon Fiesoli, avait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. Quand même. La secte avait des pratiques d'humiliation publique, les confessions auxquelles les mineurs étaient soumis. Certaines victimes parlent de viol psychologique et de lavage de cerveau violent et systématique, et on pourrait aussi parler, semble-t-il, de conditionnement. Il y avait aussi des punitions comme l'enfermement dans une chambre froide durant des heures. D'autres disent avoir été violés dès 12-13 ans par Fiesoli et Goffredi. Selon Fiesoli, les abus sexuels sur les enfants étaient destinés à les libérer de la matérialité. Et leurs parents adoptifs, ainsi que toute la communauté, les éduquaient comme cela, ou faisaient la même chose, si bien qu'eux-mêmes étaient convaincus que c'était à la fois normal et bien. Je cite, nous avons tous dû essayer de mûrir par la confrontation, se souvient Donatella. Et la confrontation, dans le vocabulaire inversé du prophète, c'était une relation sexuelle homosexuelle. Fin de citation. Expliqué à une victime en 2013, ceux qui étaient attirés par le sexe opposé étaient insultés. Je cite, ils étaient humiliés devant tout le monde. Soumis à des éclaircissements, il vous mettait sur une chaise le soir et faisait un procès. Tu devais avouer être en proie à des obsessions sexuelles, même si ce n'était pas vrai, ou avoir souffert de la violence de la famille d'origine, même si cela ne s'était jamais produit. Fin de citation. Ceux qui se rebellent ou s'opposent souffrent de, donc, punition. Au comité scientifique du Forteto, qui se donnait donc une apparence de sérieux, on trouvait notamment, lors de la création en 1998, donc là je vous renvoie au podcast du foyer des Tournelles, où c'est pareil, on avait un conseil d'administration de foyers pour mineurs avec des magistrats, des avocats, des universitaires. Mais qu'est-ce qui branle là? C'est une blague ou quoi? Franchement, vous avez déjà vu un foyer pour mineurs avec un conseil d'administration scientifique où à l'intérieur vous avez 8 notables et quasiment des prix Nobel? Non mais attends, on rêve. Alors là, tenez-vous bien. Au comité scientifique, c'est même pas le conseil d'administration, il y a un comité scientifique au Forteto. Il y avait en 98 l'ex-président du tribunal pour enfants, Gianfrancesco Casciano, le juge pour mineurs, Antonio Di Matteo, le politicien local, Eduardo Bruno, le professeur Giuliano Pisapia, aujourd'hui qui est devenu le maire de Milan, qui dirigeait alors les procès en cassation, qui a condamné Fiesoli en 85. Mariella Primicheri, alors officier au quartier général de la police de Florence. Quand même incroyable. Les victimes parlent de protection. Les faits étaient connus depuis 35 ans, selon une association qui réclame des excuses de la part des autorités politiques, mais aussi de la justice et des services sociaux, car personne n'a agi. De fait, la lenteur de la justice a été manifeste, et personne n'avait envie d'éclaircir ces affaires d'abus divers et variés. Les victimes qui ont porté plainte en 2011 sont enfin parvenues à faire bouger la justice, mais une grande partie des faits étaient déjà prescrits. Par exemple, les 6 ans de prison auxquels a été condamné le bras droit et idéologue de Fiesoli, Luigi Goffredi, ont été annulés pour cause de prescription. Suite aux plaintes de 2011, le parquet de Florence a été particulièrement lent et réticent à ouvrir une enquête sur les presque 40 ans d'abus commis dans cette secte. Ceci dit, selon les victimes, les contrôles des services sociaux étaient inexistants à l'époque des abus. Si la justice a bougé, c'est probablement parce qu'une commission a été mise en place par la région en 2012 et qu'elle a auditionné quelques témoins et victimes et reconstitué une partie du puzzle de cette affaire. Alors là, on peut quand même signaler que les contrôles des services sociaux dans les foyers pour mineurs, c'est un sujet. Il y avait eu un documentaire sur France 5 qui s'appelait Les foyers de la honte, où du fait de la décentralisation des ASE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est chaque département qui contrôle toutes les structures à laquelle elle sous-traite la protection de l'enfance, puisque ce sont des associations, ce sont des tout ce qui voilà, ce qui est, alors eux, l'ASE gère les familles d'accueil, mais tout ce qui est foyer pour mineurs, associations d'accueil de protection des mineurs, c'est beaucoup de la sous-traitance. Donc ce sont les départements qui contrôlent eux-mêmes. Là, on en était à peu près, en moyenne, un foyer sur mineur était contrôlé tous les 26 ans en France. C'est la Cour des comptes qui avait fait ce constat, d'accord? Avec des sommes importantes, puisque c'est des dizaines de milliers d'euros qu'on gagne par an, pour pouvoir accueillir un mineur, délinquant, ou un mineur, voilà, qui a besoin d'accueil. Donc en fait, il y a vraiment des détournements d'argent. On se rappelle du cas fameux d'un gars qui avait réussi à s'acheter une Ferrari, un directeur de foyer pour mineurs. Il leur faisait manger des pâtes toute l'année, il les frappait, le truc était complètement délabré et lui, il s'était acheté une Ferrari. Voilà. Mais bien sûr, ça ne se sait pas. Hein, bien sûr, personne n'était au courant. Allez, reprenons. La presse locale évoque, je cite, tout un système de pouvoir en Toscane, fait de complicité cachée et de soutien explicite. De court-circuitage institutionnel, de lignes de crédit illimitées ouvertes par la région, la ville de Mugello, le tribunal pour enfants et les services sociaux. Fin de citation. Donc c'est extrêmement clair. On peut même se demander, puisque dès le départ, cette petite communauté se déplace d'un village plus éloigné de Florence à une ferme bien plus proche, achetée par la région. Moi j'appelle ça de la préméditation. Vu de France, on pense à des associations donc comme le Choral, le Cheval pour tous, l'école en bateau, les Tournelles. Donc effectivement, l'école en bateau également. Je vous renvoie un podcast consacré à cette affaire. D'ailleurs, comme au Choral, diverses personnalités politiques et magistrats défilaient au Forteto. Fabrizio Bracchi, ancien maire de Calenzano, a raconté plusieurs assemblées à la Casa del Popolo, où, après les condamnations de Fiesoli et Goffredi, le président de la Cour des mineurs de l'époque, Giampaolo Meucci, est venu justifier quelque chose d'injustifiable. Je cite: À Forteto, les présidents du tribunal des mineurs étaient à la maison. Tous les témoins le disent, ils sont venus déjeuner. Fin de citation. Pouvait-on lire en 2014 dans un journal régional qui citait une série de politiciens, Il Tirreno. Des instructions de vote étaient même données aux membres de la secte. 35 ans d'occasion manquée. Un des magistrats les plus proches de Fiesoli était Giampaolo Meucci, président du tribunal des mineurs de Florence depuis 1966 jusqu'à sa mort en 1985, qui a contribué à la grande réforme du droit de la famille. Malgré qu'il ait suivi la procédure contre le prophète et son bras droit, il a continué à confier des mineurs au Forteto. Ce juge Meucci n'a pas hésité, le jour de la libération de Fiesoli, à lui remettre un enfant trisomique. Il a toujours dit que sa condamnation n'était due qu'à un complot. En 1998, deux psychiatres avaient dénoncé le fait que les liens des enfants avec leur famille d'origine avaient été réduits au strict minimum. Peu après, quand un enseignant a tenté d'alerter sa hiérarchie sur le malaise avec les relations avec leur famille, il a été convoqué face à Fiesoli et s'est vu retirer les élèves de la coopérative. Alors le fait de casser le lien avec les familles, ça c'est classique, hein. Au Choral c'était pareil, on interdisait les enfants de voir les familles, et ils avaient le droit de venir les voir une fois par an, hein. Ça évite comme ça qu'ils témoignent et qu'on s'en rende compte trop vite. En 2000, et puis ça donne le temps de les formater pour qu'ils se taisent. En 2000, les directeurs du Forteto sont envoyés devant la Cour européenne des droits de l'homme par les parents de deux enfants hébergés dans le centre. Ils ne sont jamais parvenus à ramener leurs fiches chez eux, celui-ci étant manifestement sous l'emprise de Fiesoli. En 2002, des parents portent plainte contre le chef de la police locale qui refusait d'enquêter sur le Forteto. Ils se sont vus eux-mêmes poursuivis pour calomnie par le parquet. Les parents avaient aussi écrit au sujet de Fiesoli au tribunal des mineurs et au maire de la ville. Puis en 2009, un nouveau couple porte plainte. Le procès en première instance de 2013 avait permis de pointer du doigt, je cite, les manquements à la justice, les défaillances dramatiques des services sociaux publics et la bienveillance inexplicable d'une certaine partie politique, culturelle et même judiciaire accorde à un homme depuis des décennies. Fin de citation. Alors, c'est toujours le même couplet, hein. Dysfonctionnement, incompétence, oui, bien sûr, bah, surtout réseau de gens très organisés qui savent exactement ce qu'il fait, et réseau de protection, voilà comment ça s'appelle. Les rapports réalisés par les services sociaux, par exemple, étaient d'une rare complaisance et ont été tournés au ridicule lors du procès en raison notamment de leurs incohérences. On apprenait ainsi que le dossier judiciaire contenant la procédure de 77, la procédure de 77 à 85 contre Fiesoli et Gyofferi avait disparu des archives du tribunal, avant de réapparaître mystérieusement en novembre 2013. Des magistrats l'avaient vainement cherché en 2012 quand ils ont commencé à travailler sur les plaintes de 2011. Par ailleurs, si une partie des victimes a quitté la communauté, certaines d'entre elles travaillent toujours pour la coopérative et restent donc dépendantes du système. D'autres vivent toujours dans la communauté. Celles qui ont pu fuir totalement semblent être une minorité. Fiesoli et les responsables du Forteto, selon la commission d'enquête régionale, étaient en permanence occupés à faire des relations publiques, à la recherche de nouveaux contacts pour étoffer leur carnet d'adresses et accroître leur influence. Quelle suite? Aujourd'hui, la coopérative dit qu'elle condamne ces faits qui sont anciens et que plus personne parmi les dirigeants n'est en lien avec l'affaire. L'équipe dirigeante aurait été totalement renouvelée après le procès de 2013. Pourtant, des victimes qui ont parlé ont soutenu d'autres victimes qui parlaient. Qui ont dit avoir subi des représailles depuis ce procès. En 2015, une deuxième commission d'enquête régionale a été établie, pour cette fois-ci, pour étudier la question des défaillances institutionnelles et comprendre comment les autorités ont pu cautionner cette structure qui, 1. N'était pas un centre éducatif, aucun personnel qualifié, pas d'éducateur, pas de formation, n'était pas un foyer familial ou un centre familial, la communauté était même hostile à toute notion de famille, n'a pas respecté la loi sur la garde des mineurs en les maltraitant et en les coupant de leur famille. Au final, la commission a recommandé la formation d'une commission d'enquête parlementaire au niveau national et à une inspection approfondie de la Cour des mineurs de Florence. En outre, le Conseil identifiait certains dirigeants parmi les fonctionnaires et envoyait l'autorité compétente une demande d'évaluation des mesures disciplinaires qui peuvent être amenées à leur destitution. En mai 2017, le Sénat a donné son feu vert pour la création de cette troisième commission au niveau du Parlement italien cette fois. Il a fallu 2 ans pour dépasser le refus du Parti démocrate. La commission devait porter sur l'ensemble des événements qui se sont produits à Forteto. Cependant, on l'a bien vu avec les commissions d'enquête parlementaires sur l'affaire Outreau ou sur Doutreau, ou encore en Angleterre, ces machins sont surtout des super blanchisseuses destinées à laver plus blanc les dossiers les plus pourris. Elles sont là pour fermer certaines pistes qu'elles n'abordent jamais, insister sur des détails sans intérêt et en comparaison des scandales sous-jacents, et finalement, en dehors des témoignages de certains protagonistes généralement étouffés et pas pris en compte, ces commissions ne vont pas au bout des choses et il n'en ressort rien de bien pertinent. Dans cette affaire, il est manifeste que les autorités ont commis des manquements graves, et cela de manière répétée et systématique pendant près de 40 ans. Pourquoi? On sait qu'il y avait des amitiés, des collaborations, une proximité avec nombre de personnes bien placées, et cela aussi bien dans le politique que dans le monde judiciaire et académique. Est-ce qu'il y a eu des complicités de la part de gens qui savaient ce qu'il s'y passait? Oui. Étaient-ils conscients de ce qu'il se passait? Certains ont-ils participé? Officiellement, rien ne semble permettre de le dire.